Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une exploration vraiment fascinante de Paris. On va regarder les monuments, les sites marquants, tu sais, ce qui ressort des documents qu'on a.
Oui, bonjour.
L'idée, ben, c'est de voir ensemble ce qui fait vibrer la Ville Lumière, son histoire, sa culture, son quotidien aussi.
Absolument. Puis c'est frappant quand on regarde les infos, comment ça dessine un portrait complexe, là.
Mm-hmm.
Un mélange d'histoires gravées dans la pierre, d'art un peu partout, les lieux de pouvoir aussi, puis les scènes de vie typiquement parisiennes. On va essayer de faire des liens entre tout ça.
Parfait. Alors, par où on commence? C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté des symboles que tout le monde connaît.
Ben non.
La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Mais les documents parlent aussi d'un truc assez curieux, mettons. Des répliques de la Statue de la Liberté.
Ah oui?
Oui, comme celle sur l'île aux Cygnes ou une autre au Jardin du Luxembourg. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, c'est une bonne illustration de la portée symbolique de ces monuments, tu sais. C'est pas juste pour attirer les touristes.
D'accord.
Ils racontent des histoires. Les arcs, comme celui de l'Étoile ou celui du Carrousel, ou même les colonnes.
Oui.
La colonne de Juillet, place de la Bastille, ou la colonne Vendôme. Tout ça, ça célèbre des moments importants, souvent des victoires militaires.
OK, je vois.
Même l'obélisque de Louxor sur la place de la Concorde, avec les fontaines autour, ça participe à cette idée d'inscrire l'histoire dans le paysage, puis d'embellir la ville, bien sûr.
Et les statues de la Liberté, alors?
Ah oui, ça rappelle aussi les liens historiques forts, hein, entre la France et les États-Unis. C'est un thème qui revient un peu dans les infos, on dirait.
Mmh. Et Paris, ben c'est clair que c'est aussi le cœur du pouvoir en France. Les sources nous montrent le palais du Luxembourg, où est le Sénat.
Oui.
Le palais Bourbon pour l'Assemblée nationale. Puis bien sûr, le palais de l'Élysée. Ça fait pas mal de pouvoir au même endroit.
Exactement.
Et puis, il y a le Panthéon.
Oui, puis c'est ça qui est intéressant, hein, cette concentration géographique. Pas juste du pouvoir politique, mais aussi du savoir, de la reconnaissance nationale.
Ah, OK.
Le Panthéon, c'est la dernière demeure de figures comme Hugo, Jaurès, Pierre et Marie Curie. C'est un symbole fort.
C'est vrai.
Puis juste à côté, t'as l'Institut de France, qui abrite l'Académie française. Cette proximité entre pouvoir et savoir, c'est assez marquant.
Les documents soulignent aussi une richesse spirituelle et culturelle assez incroyable. On pense tout de suite à Notre-Dame, la Sainte-Chapelle.
Exactement. Puis ce qui ressort vraiment, c'est la diversité.
Mm-hmm.
À côté de ces grandes icônes catholiques, ben, on trouve la Grande Mosquée de Paris, l'église Saint-Germain-des-Prés, qui est super vieille, la basilique du Sacré-Cœur sur sa butte.
Oui, Montmartre.
C'est ça. Sans parler de tous les musées, là, il y en a tellement. Les sources nous montrent vraiment une ville avec plein de visages religieux, culturels, qui cohabitent dans un espace quand même assez petit, hein.
Mais Paris, c'est pas juste des bâtiments puis des institutions quand même. C'est une ambiance aussi, non?
Ah oui, tout à fait.
Les Champs-Élysées, évidemment. Le quartier latin avec les étudiants. Montmartre, les artistes, place du Tertre. Le charme des îles, l'île de la Cité, l'île Saint-Louis.
Oui.
Moi, j'aime bien aussi l'image des bouquinistes le long de la Seine. Ça m'a toujours fasciné.
C'est vrai, c'est une belle image. Puis ce qui est captivant, c'est comment les informations mettent côte à côte cette atmosphère-là, qui est parfois comme hors du temps, avec une modernité qui est très présente.
Ah oui? Comment ça?
Bien, on voit apparaître des structures audacieuses, là. Le Centre Pompidou, par exemple.
Oui, très différent.
La pyramide du Louvre, qui dialogue avec le vieux palais classique, la Philharmonie de Paris, ou même, dans un autre style, tout le quartier de la Défense, juste à côté. C'est un contraste constant.
Les parcs aussi, ça semble important pour l'équilibre de la ville, d'après ce qu'on lit. Le Luxembourg, les Tuileries, les buts de Chaumont.
Essentiel, oui. Des vrais poumons verts, là. C'est indispensable dans une ville aussi dense.
Hmm.
Puis la vie parisienne, c'est aussi le magasinage. C'est une autre facette que les documents mentionnent. Des grands magasins connus, comme les Galeries Lafayette, jusqu'au charme plus caché des passages couverts historiques.
Comme la Galerie Vivienne.
Exactement. Comme la Galerie Vivienne. Fait que c'est ça, c'est un mélange constant d'anciens et de nouveaux, de grandiose puis d'intime.
Donc, si on essaie de résumer un peu, on a une ville où chaque pierre, on dirait, raconte une histoire, où le pouvoir puis la culture sont très proches, et où la vie moderne essaie de s'intégrer, tant bien que mal des fois, dans ce décor historique. Qu'est-ce qui ressort comme idée forte de tout ça?
Ce qui ressort le plus, je pense, c'est l'image d'une ville qui est toujours en dialogue avec son passé, mais qui regarde résolument vers l'avenir.
D'accord.
Tous ces lieux, les anciens comme les nouveaux, c'est pas juste des points sur une carte, tu sais. Ensemble, ils forment le récit d'une identité complexe, une identité qui est toujours en train de se construire.
Intéressant.
Puis ça, ça soulève une question de fond, peut-être pour une autre fois. Comment est-ce que cette intégration continue du moderne dans l'architecture, dans les façons de vivre, au milieu d'un patrimoine aussi riche? Comment ça façonne l'âme de Paris pour demain?
Ah, bonne question.
C'est là, je pense, que réside le défi, mais aussi la fascination sans fin pour cette ville. Une piste de réflexion, mettons.